RCF.
Ils sont tous là pour le 18-19 en région, un 18-19 animé par Alexis Claudretz.
Bonsoir à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver ce jeudi soir pour un nouveau magazine régional, déjà l'avant-dernier de la saison. Ils sont là, fidèles au poste, nos stagiaires à la rédaction. C'est les premiers vers qui j'ai envie de me tourner, tant ils ont été formidables aujourd'hui. Comme tous les jours, ils ont bien travaillé, mais peut-être encore un petit peu plus que d'habitude et sous pression. Bonjour Luca.
Bonsoir Alexis, pardon.
C'était une journée avec pas mal de montage, pas mal de reportages, pas mal de rebondissements.
Eh oui, mais c'est les journées qu'on aime.
Hein. C'est les journées qu'on aime. Vous aussi Raphaël, vous avez aimé cette journée ?
Oui, c'était peut-être la meilleure de la semaine pour moi.
Peut-être la meilleure de la semaine, et pour cause, vous avez fait ce que vous aimez, comme vous l'avez dit, du sport. On est allé à la rentrée du Stade de Reims, vous développerez quelques informations à ce sujet aux alentours de 18h20. Dans quelques instants, on parlera économie, comme tous les jeudis, avec notre chroniqueur Gérard-Marie Henry, qui s'intéressera aux constructeurs automobiles qui investissent dans le secteur minier. Aux alentours de 18h30, le journal régional, avec l'information en deux titres, avec les rédactions de RCF Cœur de Champagne et RCF Reims-Ardennes. On reviendra sur le baccalauréat et leurs résultats, puisque vous le savez, dans l'émission, dans la chronique Parole de Jeunes, Satie Dosso est allée à la rencontre de Pauline, Léonie et Paul. On sera également avec Clara Wagner qui évoquera le lancement d'un orchestre d'enfants Demos du côté de Saint-Dizier, et puis une touche spirituelle, une touche diocésaine avec Anne Kerr, responsable de l'hospitalité pour le diocèse de Reims et des Ardennes. Elle évoquera le pèlerinage à Lourdes. Voilà pour le sommaire de cette émission. 18h12, déjà ce jeudi, après ce sommaire, le 18-19, c'est parti avec la question d'économie avec Gérard-Marie Henry avec nous par téléphone, toujours depuis la Bretagne. Bonjour Gérard.
Bonjour Alexis, bonjour à tous.
Gérard-Marie Henry, aujourd'hui on va parler constructeur automobile et il se retrouve dans une situation un petit peu complexe, photographie de ce secteur. Que se passe-t-il Gérard ?
D'un côté, on a une demande de voitures à batterie, donc des voitures électriques complètes ou des voitures hybrides rechargeables qui augmentent fortement. Pour le premier trimestre en France, c'est 27% des voitures neuves qui sont soit totalement électriques, soit hybrides rechargeables. Donc il faut plein de batteries. Et dans ces batteries, on a besoin de trouver, de mettre du lithium. Le lithium, c'est un métal qu'on trouve en faisant des mines, et il y a un petit problème d'approvisionnement de ce métal au niveau mondial.
Alors justement, comment fait-on pour essayer de s'approvisionner davantage ? Parce que si ce lithium est indispensable, Gérard-Marie Henry, on imagine qu'il faut trouver d'autres solutions.
Oui, alors donc on a d'un côté des constructeurs chinois qui sont, eux, propriétaires de ce lithium. Enfin, la Chine a pas mal de mines qui lui permettent de faire des batteries. Donc on a par exemple le grand constructeur automobile chinois qui s'appelle BYD, qui devient le concurrent de Tesla, qui peut avoir donc des batteries sans problème. Puis à côté de ça, on a les constructeurs européens ou américains qui sont obligés de se débrouiller. Et donc pour se débrouiller, au lieu d'acheter le lithium à des fournisseurs, à des entreprises minières, ils ont décidé de devenir eux-mêmes des mineurs, c'est-à-dire d'acheter des mines directement pour être sûr d'avoir la production qui leur revient.
Donc mais j'allais dire, des mines, comment ça s'achète, Gérard-Marie Henry ? Est-ce que l'on va faire son marché, comme on pourrait dire, tiens, j'ai envie d'acheter une voiture, justement ? Est-ce qu'on regarde la carte, on se dit, il y a des mines ici, je vais aller négocier avec tel État ou telle personne ?
Oui, on a des propriétaires de mines qui se disent, dans le fond, je pourrais l'exploiter tous les ans, j'aurai un revenu, etc. Mais si je trouve un acheteur qui me paye les revenus sur 25 ans en disant, j'achète la mine et c'est moi qui la ferai tourner, le propriétaire de la mine se dit peut-être que c'est intéressant comme solution. Je ne suis plus obligé de faire le travail et je vais avoir un revenu qui va arriver d'un seul coup au lieu d'attendre année après année avec les risques de montée du cours ou de baisse du cours, etc. Donc on a dans pas mal de pays des propriétaires de terrains dont on sait qu'il y a dedans du lithium qui se disent s'il y a un acheteur qui vient, je veux bien me laisser séduire. Et donc les constructeurs sont à la recherche de ces mines et mettent pas mal d'argent de côté. On estime qu'ils vont investir à peu près une cinquantaine de milliards de dollars pour mettre la main sur des endroits où il y a du lithium et qui leur permettra de faire des batteries dans 5 ans, dans 10 ans.
Et s'ils mettent autant d'argent dessus, c'est qu'il y a des enjeux aussi derrière, notamment des enjeux, par exemple, on parle de General Motors qui prévoit que toutes ces voitures soient électriques d'ici 2035. Donc pour réussir cette transition, ils ont absolument besoin de ces matériaux.
Absolument. Et comme en Europe, on a décidé en Union européenne qu'on aurait lui aussi uniquement des voitures électriques dans une douzaine d'années, bah, les constructeurs européens comme Volkswagen, comme Mercedes, etc., et puis Renault et Stellantis, bien sûr, ont une pression très forte pour pouvoir être sûrs qu'ils auront suffisamment de lithium à ce moment-là pour faire des batteries pour leurs véhicules. Alors il y a un risque, c'est qu'en fait, si toutes ces mines qui sont achetées en ce moment se mettre à produire, ben on pourrait avoir en fait l'inverse, c'est-à-dire une surproduction de lithium, comme ce qu'on a vu il y a quelques années. J'avais mis dans l'article que j'ai envoyé un petit graphique où on voit le prix du lithium qui monte à 600 000, et puis qui d'un seul coup s'écroule, puis là il est en train de remonter à 300 000 yuan, parce qu'en fait c'est un des rares produits qui est libellé en monnaie chinoise, hein. Tous les produits habituels, que ce soit le pétrole, le blé, etc., sont libellés en dollars, mais là, comme ce sont les Chinois qui contrôlent l'essentiel de la production, bah, les prix sont des prix en yuan, la monnaie chinoise. Donc on a le risque pour ces constructeurs qui se lancent dans cette aventure, bah, d'avoir à un moment donné des mines, effectivement à eux, mais qui vont leur coûter très cher, alors qu'ils pourraient acheter sur le marché le lithium moins cher que ce qu'ils ont payé.
Alors ce lithium et ces mines, Gérard-Marie Henry, on les trouve où principalement? Parce que c'est vrai qu'on dit voilà, il faut le trouver, etc., mais on imagine qu'il y a des pays ressources.
On le trouve surtout dans des pays un peu bizarres, des pays dans lesquels il y a des institutions politiques chaotantes, des pays africains, des pays comme la Bolivie, etc. Donc des pays dans lesquels les Chinois n'hésitent pas à investir, hein, ils viennent d'acheter une grosse mine en Bolivie, et dans lesquels les entreprises occidentales ont un peu plus de scrupules en se disant « bah oui, mais il y a pot de vin, il y a corruption, il y a droits de l'homme qui ne sont pas respectés, etc. » Donc on commence à avoir un certain nombre de mines qui se trouvent dans des pays normaux, par exemple au Québec. Mais là, il y a déjà des acheteurs qui ont préempté, c'est-à-dire essentiellement Tesla, depuis des années, essayer de mettre la main sur justement une fourniture de lithium, et il a une longueur d'avance sur les autres constructeurs. Il est propriétaire de mines, il n'est pas autosuffisant, mais en fait il a déjà une partie importante de sa production qui est auto-fournie, on va dire, qui lui arrive parce que ce sont des mines à lui. Et alors là, les autres constructeurs sont vraiment très loin derrière.
J'allais dire justement, Gérard-Marie Henry, est-ce que ce nouveau marché ne va pas faire qu'on va voir peut-être des nouvelles marques émerger, et puis peut-être certaines en manger d'autres parce qu'elles auront plus de moyens pour investir
absolument,
à un moment donné
absolument.
Et prendre le pari du futur?
Absolument, absolument. Et là, le risque, enfin pour les constructeurs européens surtout, c'est l'émergence de ces entreprises chinoises. J'ai parlé de BYD, BYD, qui est une entreprise dans laquelle le grand financier américain Warren Buffett a investi il y a déjà 10 ans. Et en ce moment, BYD, sur le marché chinois, est en train de rattraper, voire même dépasser Tesla. C'est-à-dire donc un constructeur qui maintenant devient un constructeur aux dents longues et qui arrive en Europe et qui va proposer donc ses véhicules face à une concurrence européenne qui est un petit peu légère, quoi. Et donc là, on risque d'avoir un choc assez important, même grave pour les industriels comme Stellantis, Mercedes, Volkswagen, etc.
Justement, vous parlez des marques européennes, vous venez de mentionner Stellantis avec PSA, Peugeot, Citroën, on pense aussi à des marques françaises comme Renault, etc. Est-ce qu'elles ont quand même une chance de s'en sortir, Gérard-Marie Henry?
Elles investissent beaucoup, elles espèrent que ces investissements vont porter leurs fruits, c'est-à-dire qu'elles auront une supériorité sur les voitures chinoises qui vont débarquer, ou qui débarquent déjà, mais on en a déjà pas mal sur le marché français, on a MG, on a Lincoln Co, etc., bon, qui ont encore des niches petites, hein. Il s'agit de quelques milliers de véhicules, mais le fait qu'ils soient capables de les vendre déjà, c'est un peu inquiétant pour l'avenir. Et là, ils ont l'avantage d'avoir cette fourniture de lithium que nos constructeurs n'ont pas automatiquement.
Bon, en tout cas, Gérard-Marie Henry, un grand merci de nous avoir éclairé sur le marché automobile et sur la rareté du lithium qui pousse ces constructeurs à investir dans le secteur minier, Gérard-Marie Henry. Et puis, on vous retrouve peut-être encore une fois la semaine prochaine en local sur RCF France Ardennes avant cette fois partir en vacances définitivement.
Excellent, on se retrouve la semaine prochaine.
Mais c'était votre dernière apparition dans le magazine régional. On vous dit à très bientôt et on vous souhaite au nom de tous les auditeurs en région un très bel été, Gérard-Marie Henry. Merci beaucoup.
Merci Alexis.
Le 18-19 sur RCF.
18h20 sur RCF en région avec Luca Mastrolillo, Raphaël Feillot. Ils ont aimé faire du sport. Allez découvrir la reprise du Stade de Reims cet après-midi. Luca, bonsoir.
Bonsoir Alexis.
Raphaël, bonsoir. Dites-nous en plus, que s'est-il passé concrètement au centre de vie Raymond Coppa ce jeudi?
Eh bien, Alexis, cet après-midi a eu lieu la conférence de presse de reprise du Stade de Reims au centre de Viré-Montcopa. Avant de rentrer dans le vif du sujet avec cette nouvelle saison qui arrive, le coach rémois Will Steele n'a pas caché son excitation de retrouver les terrains.
Après un mois de vacances et de congés et de s'être un peu vidé la tête, ça fait du bien de retrouver les gars, ça fait du bien de revoir le staff. Il y a pas mal de nouvelles têtes dans le staff. C'est comme quand on est petit et qu'on rentre à l'école, on a l'impression d'avoir plein d'énergie, d'avoir le sourire partout. Donc non, c'est cool, c'est bien, c'est une bonne chose, je pense.
Il nous a également parlé de ses vacances avec humour.
On m'a forcé à partir en vacances, donc je suis parti à Punta Cana pendant une semaine. Mais les roues et la chaleur, ça fait pas bon mélange, donc j'étais pas forcément à mon aise. Après ça, j'ai passé quelques jours ici à Reims, et puis j'ai été voir la famille en Angleterre, à Manchester et à Londres. J'ai essayé de déconnecter un maximum, même si c'était pas forcément facile à faire ou ce que je préfère faire. Mais il paraît que c'est important, donc c'est ce que j'essaie de faire. Et puis je suis rentré sur Reims dimanche dernier.
À l'occasion de cette conférence de presse, il en a profité pour revenir sur la saison dernière et il espère retrouver au plus vite ses internationaux.
Elle a été éprouvante parce qu'on a souvent utilisé les mêmes mecs sur beaucoup de matchs. Je pense que la saison a été longue pour tout le monde. Tous les clubs vous diront qu'avec la Coupe du Monde, elle était un peu spéciale et elle a duré un peu plus que d'habitude. Vu le groupe qu'on avait après la trêve hivernale, on a vraiment dû tirer sur tout ce qu'il y avait. Mais je pense que tout le monde a vu à la fin qu'il restait plus grand-chose. Donc oui, c'était important, surtout pour les joueurs, de décompresser, de recharger les batteries et de revenir avec un peu d'énergie et de fraîcheur. Et c'est pour ça aussi qu'on n'a pas forcé les internationaux qui sont toujours en repos de revenir trop tôt. Si je pense à un gars comme Ito, il a joué la Coupe du Monde aussi. Et je sais pas combien de matchs il a joué sur la saison, mais il doit avoir bien poussé aussi. Donc c'est important que ces mecs-là puissent se reposer et puissent retrouver un peu de fraîcheur et d'énergie et de bonne humeur aussi. Et c'est ce qui a été fait chez tout le monde. Donc on attend le retour de ces mecs-là et puis on pourra attaquer au complet une préparation qui va être assez courte parce que Marseille, c'est déjà un peu plus d'un mois. Mais ça va être bien, on va essayer d'en profiter un maximum. On va essayer d'intégrer les nouveaux qui sont déjà arrivés ou qui vont arriver au fur et à mesure et d'être le plus compétitif ou avoir l'équipe la plus compétitive possible sur le premier match à Marseille et puis essayer d'enchaîner après ça.
Le mercato a ouvert ses portes il y a un mois. Des départs sont à prévoir. Il fait le point.
Non, sur la grosse majorité, on a été assez clair avec ceux qui doivent rester ou ceux qui doivent partir. Mais c'est aussi important pour eux. Alors, on dit souvent, ouais, c'est pas très honnête du club ou c'est pas très gentil. La dernière nouvelle, le monde du foot est pas très gentil. Et c'est important pour leur carrière aussi à eux de partir et d'aller voir autre chose, d'aller jouer ailleurs, d'aller toucher un autre projet parce qu'ils sont à la fin d'un cycle. Après, ouais, il y a toujours un ou deux joueurs. Il y a une offre qui arrive, tu t'y attends pas trop. Qu'est-ce qu'on fait en tant que club? Mais non, le plus important ou le plus gros du travail a été fait. Et on a été assez clair sur qui sera là ou sur qui sera pas là. Mais je le dis, il y a toujours des aléas dans un mercato, donc on va attendre patiemment et essayer de faire les choses le mieux possible.
Will Steele se montre également assez direct avec les joueurs partants, qui sont invités à s'entraîner avec le groupe Pro D2.
C'est l'avantage qu'on a, c'est que la Pro 2, c'est déjà une équipe pro en tant que telle. Donc les joueurs qui doivent partir ou qui seront menés à partir vont forcément devoir s'entraîner avec ce groupe-là en attendant. Mais je le dis, le message est ou va être assez clair pour ces gars-là. Il y a une nouvelle page à tourner et un nouveau cycle à écrire, et c'est ce qu'on va essayer de faire dans les semaines à venir. Et ce n'est pas manquer de respect envers qui que ce soit, c'est juste la dure réalité parfois du monde du foot, et être assez honnête et être assez droit que pour pouvoir l'accepter.
Un des départs marquants de cet été, celui de l'avant-centre aux 21 buts, Follarin Balogun. Un départ difficile à combler, mais il a quelques pistes en tête.
Je pense qu'il y a plusieurs moyens de le remplacer. Soit tu le remplaces de manière collective, peut-être en apportant un peu plus de monde justement sur ce secteur offensif, chose qu'on n'avait pas forcément l'année dernière encore une fois, et en visant très très bien ou en ciblant très très bien les recrues potentielles ou celles qu'on aimerait amener ici. Et je pense que ça a déjà été le cas avec Oumar Diakité et Amin Salama. Ils ont un potentiel fou, ils doivent encore le confirmer. Mais on a déjà plus de nombre et plus de joueurs à ce poste-là, donc ça c'est déjà intéressant. Et je le répète, il y en a encore d'autres qui vont arriver. À moi de rester patient et aux supporters de rester patient, mais j'ai entière confiance en la direction et je suis certain que le travail sera fait. Donc je le dis, ouais, on va le solutionner de façon collective et en ciblant très très bien les joueurs qui vont rentrer par la porte du club.
Le coach Bell, conscient des carences que l'équipe pouvait montrer sur son côté gauche, il est donc lucide sur la nécessité de le renforcer.
Ouais, aussi bien au niveau du latéral, parce que Thibaut, personne ne s'attendait vraiment à ce que Thibaut joue quand je suis arrivé, et puis on a réussi à le relancer, mais c'est important pour Thibaut aussi d'avoir de la concurrence, parce qu'il n'y a qu'avec de la concurrence qu'un joueur peut progresser, et je pense que même un aveugle aurait vu qu'on avait besoin de quelque chose dans le secteur offensif, surtout de notre côté gauche. Donc on n'est pas bête, on n'a pas fermé l'œil à ça. On sait qu'on va devoir renforcer ce poste-là et c'est ce qu'on va essayer de faire ou c'est ce qu'ils vont essayer de faire. On veut avoir une double occupation de chaque poste et pouvoir apporter certaines choses nouvelles parce que c'est ce qu'il faut quand le niveau de la compétition est élevé. Encore une fois, je pense que tout le monde s'en rend compte, que ce soit nous au club, le supporter et même au sein du groupe. Donc non, on serait bête que de ne pas le faire, je pense.
La saison dernière était emballante à tout point de vue. Will Steele est bien décidé à surfer sur cette dynamique.
Je ne vais pas changer la personne que je suis, je ne vais pas changer les idées que j'ai non plus. J'ai envie de jouer, j'ai envie que l'équipe joue, j'ai envie d'aller presser, j'ai envie d'aller chercher. Ça demande beaucoup d'énergie, ça demande beaucoup de concentration et de joueurs capables de le faire. Donc c'est ce qu'on va essayer de mettre en place et c'est ce qu'on essaie de mettre en place. Je sais que ça ne va pas arriver en un claquement de doigts, je sais qu'il y a pas mal de travail à faire. Et c'est pour ça, encore une fois, que c'est important d'avoir les joueurs le plus tôt possible et c'est ce qu'on essaie de faire. Mais pour ma part, personnellement, non, c'est une belle opportunité. Je pense que j'ai trouvé un endroit où je peux m'épanouir en tant que personne et en tant que coach. Et il y a une bonne entente à tous les étages du club. Donc c'est un endroit sain, c'est un environnement propice à prendre et à essayer de gagner le plus de matchs possible. Et c'est ce qu'on va essayer de faire.
Le Rémois nous livre ses objectifs.
C'est difficile de fixer un objectif précis parce qu'on va attendre la fin du mercato, on va attendre de voir ce que les autres équipes vont proposer. Mais si on regarde seulement dans notre propre assiette, on va essayer de... Encore une fois, ouais, ça peut être chiant pour vous, mais gagner le plus de matchs possible et pas se contenter de faire un match nul contre l'avant-dernier du classement. C'est un peu cet état d'esprit-là qui doit changer au stade de Reims ou qui doit évoluer. C'est pas juste, on est content d'être là, on est content d'être en Ligue 1 et on va essayer de se sauver le plus vite possible pour encore vivre une saison tranquille. Forcément, c'est important, mais je pense que le club veut se montrer ambitieux et moi, j'ai envie d'énerver le plus de monde possible dans les équipes au-dessus de nous. Est-ce que c'est ce qu'on va essayer de faire? Donc, ouais, forcément, faire mieux que la saison dernière. Mais avant de regarder les autres, ça se regarder nous-mêmes et on va essayer de se pousser au maximum pour être le mieux préparé tactiquement et techniquement et essayer de gagner tous les matchs qu'on peut.
Il fait également passer un message à ses supporters, très présents la saison dernière, et leur demande de poursuivre sur leur lancée.
C'est surtout un message par rapport à l'ensemble du projet qu'on essaie de mettre en place. Je pense que le message que j'ai pu avoir l'année dernière quand je prenais un style de jeu proactif et que je voulais que les supporters nous poussent, ça a été le cas. Je pense que même dans les moments difficiles sur la fin de la saison où c'était peut-être un peu moins bon, on a un peu été essoufflé, je pense que les supporters avaient compris dans quelle direction on voulait aller et cette direction va pas changer. Et ils ont été énormes sur la grosse majorité de la saison dernière, en tout cas à partir du moment où j'ai repris. Tout ce que je peux leur demander ou les encourager à faire, c'est de continuer à être derrière nous et de continuer à faire de Delaune pas juste un stade anodin, qu'il a parfois pu être par le passé. Et c'est de rendre Delaune vraiment un endroit fervent et agréable à jouer pour nous. Parce que ça fait une différence de fou de jouer dans un stade de Delaune qui fait du bruit, qui bouge, qui pousse l'équipe. Donc venez, on va essayer de vous donner un maximum de plaisir, on va essayer de gagner le plus de matchs possible et de jouer un style de jeu et un football qui va plaire à tout le monde et où nous, l'équipe sur le terrain, on va prendre du plaisir, mais on va essayer de vous en donner aussi un maximum. Continuez à venir et on va essayer de créer un truc ensemble et redorer l'image du stade de Reims, ce serait bien.
Enfin, notre coach nous parle de l'image qu'il donne au club, une image qui, pour lui, souhaite être redoré.
Tu viens pas au stade de Reims pour être content d'être au stade de Reims, que c'est une belle ville et qu'il y a pas mal de champagne. Entre guillemets, on s'en fout de ça. Ouais, c'est bien parce qu'on aime tous Reims, mais le club de foot de Reims veut être ambitieux, veut aller embêter pas mal de monde, mais veut surtout donner une belle image de soi. Et les supporters l'ont compris. Et les supporters, quand je vois certains tifos comme le match de, c'était 3, je pense, à domicile, c'est énorme. Et tu sors sur le terrain, t'as envie de jouer. Enfin, moi, ça me donne envie de jouer. Je le ferai pas parce que je suis pas aussi bon que les autres, mais non, ça donne envie et c'est important que tout le club aille dans la même direction et que tout le club pousse pour atteindre les mêmes objectifs. Et les supporters l'ont compris l'année dernière et je pense qu'ils vont continuer à pousser dans la même direction.
Will Steele qui était donc au micro de RCF Reims-Ardenne lors de cette conférence de presse de rentrée. Merci Raphaël Feyo pour ce reportage, Luca Mastroilo qui vous a aussi un petit peu accompagné pour fister tout cela. Alors c'est vrai qu'on a entendu quelques réponses du coach Will Steele, mais même vous Raphaël, vous y êtes allé de votre question lorsque Will Steele parle du message aux supporters. C'est vous qui lui avez posé cette question, qu'est-ce que ça vous a fait d'être face au coach Rémois? Et on va briser un secret, vous êtes fan du stade de Reims, vous avez même le maillot de Balogun sur les épaules.
Alors oui, j'ai vraiment eu la chance de pouvoir poser cette question à Will Steele concernant le message qu'il voulait donner aux supporters. Alors pour moi, c'était presque un rêve éveillé d'aller comme ça dans le centre de vie Raymond Coppa à rencontrer Will Steele. Alors j'ai vraiment pris beaucoup de plaisir et j'espère le refaire si c'est possible d'ici quelques mois, années.
Et si vous mettez une casquette de journaliste et que vous êtes objectif, vous, le supporter Rémois, même si, comme l'a dit le coach, c'est compliqué de se positionner pour l'instant, à votre avis, comment le Stade de Reims peut gérer sa saison 2023-2024? Comment, où le Stade de Reims peut-il finir à la fin de la saison? On rappelle, ce sera un championnat d'ailleurs à 18 équipes, hein, au lieu de 20, ça va un petit peu modifier la donne.
Oui. Donc déjà, je pense qu'il va être très important de bien commencer la saison, parce qu'on l'a vu la saison dernière, ce qui nous a fait défaut, c'est notre début de saison raté. Donc bien commencer la saison et ensuite garder une bonne dynamique, engendrer des points, pardon. Et on peut essayer de finir dans le top 8 et pourquoi pas aller titiller les grandes équipes pour aller chercher des places européennes.
Mais le Stade de Reims aussi est une grande équipe, ou au moins un grand club, avec son glorieux passé notamment, et il essaye de redorer son blason. Lucas Mastrolillo, le top 8 pour le Stade de Reims, ça vous paraît envisageable, ou la concurrence va être peut-être trop rude l'année prochaine?
Non, tout est possible dans le football, même si l'équipe a perdu beaucoup de joueurs phares pendant le mercato. Ça bosse bien à Reims, il y a des bons recruteurs. Donc je pense que tout est possible avec un coach en plus comme Will Steele qui prône une idée de jeu portée vers l'offensive. Donc tout est possible.
Un pronostic sur le classement final, vraiment, si on devait prendre une place là aujourd'hui ou un nombre de points?
Pour ma part, ce serait dixième.
Dixième, ok, allez Raphaël.
Moi je vais pas être très objectif, mais j'espère peut-être accrocher une place en Conference League pour la saison prochaine.
Ah oui, on vise haut. Allez, moi je vais essayer de me mouiller un petit peu aussi. Je vais dire une septième ou huitième place avec une bonne cinquantaine de points. Ça sera déjà pas mal dans un championnat à 18 équipes. 18h31, on a pris un petit peu de retard ce soir. Le reste de l'actualité, c'est à l'intérieur du journal régional. Avec les titres de ce jeudi 6 juillet, selon le dernier tableau de bord de conjoncture économique et sociale du Césaire Grand Est, le commerce extérieur enchaîne sa progression et le nombre de demandeurs d'emploi recule. Explication. Du football encore, après l'exclusion annoncée du club sportif Sedan-Ardenne des championnats nationaux, la municipalité réagit, le maire Didier Herbillon veut sauver le club.
RCF, l'actualité régionale, Alexis Claudretz.
Le Césaire Grand Est a présenté ce mardi à l'hôtel de région de Châlons-en-Champagne son 20e tableau de bord de la conjoncture économique et sociale. Parmi les principaux enseignements, le commerce extérieur qui enchaîne sa progression. Jean-Paul Nollet, président du groupe de travail Conjoncture au Conseil économique, social et environnemental.
C'est effectivement un marqueur qui reste positif. Nous sommes à plus de 2,1 milliards de bilan positif, ce qui concerne le Grand Est. Par contre, je pense qu'il n'est pas aussi positif parce que nous étions à plus de 6 milliards il y a encore une année. Ça veut dire que nous avons une contraction entre les exportations et les importations qui sont bien plus importantes du côté des importations que des exportations en développement économique, qui fait que nous restons malgré tout très positifs puisqu'avec 2 milliards, nous sommes la deuxième région de France à rester positive en termes de commerce extérieur.
Autre point positif, le chômage qui recule à nouveau avec 60 000 demandeurs d'emploi de moins en 3 ans.
L'orientation se présente plutôt favorablement. On voit bien qu'on a une décrue assez constante des demandeurs d'emploi. Le côté très positif, c'est que tout simplement, nous observons une décrue significative du côté des demandeurs d'emploi de plus de 50 ans. Et ça, c'est un élément extrêmement positif et qui s'observe déjà depuis quelques trimestres.
La suite, c'est la partie création d'emplois. La tendance s'est quelque peu dissipée en 2022 puisqu'on enregistre 2942 nouveaux emplois. La construction et le commerce sont les seuls secteurs qui rencontrent une diminution des effectifs. Et enfin, la barre des 210 000 travailleurs frontaliers dans le Grand Est a été franchie fin d'année 2022. Jean-Paul Nollet.
Les pays avec lesquels le Grand Est a un échange important de travailleurs frontaliers, c'est d'abord la Suisse, puisque nous avons enregistré plus de 1800 travailleurs supplémentaires donc sur un exercice, et plus de 6000 au Luxembourg par contre. Et là, on voit bien qu'au niveau du Luxembourg, le train va continuer encore durablement pour quelques exercices.
Des propos recueillis au micro RCF Cœur de Champagne de Christopher Fausten, le Césaire Grand Est se montre optimiste sur l'avenir de la région, mais reste vigilant sur la question de la défaillance des entreprises et la montée de la précarité. Changement de présidence à la tête de la mission Coteaux, Maisons et Caves de Champagne, engagé bénévolement depuis une dizaine d'années, dont 7 en tant que président, Pierre-Emmanuel Tétinger passe le flambeau à Séverine Couvreur, qui occupait jusqu'alors la fonction de vice-présidente. Séverine Couvreur sera notre invitée dans le magazine régional demain vendredi soir pour en parler. Le torchon brûle entre Marc Dubois, président du club sportif Sedan-Ardenne, et Didier Herbillon, maire de Sedan, suite à la décision de la DNCG en appel d'exclure le club ardennais de tous les championnats nationaux. Supporters et amoureux du club y voient un gâchis. Marc Dubois avait déclaré mardi soir chez nos confrères de Radio 8 n'avoir jamais été soutenu par les collectivités locales. Didier Herbillon, maire de Sedan et premier vice-président d'Ardenne Métropole, rappelle quelques chiffres clés depuis l'arrivée de Marc Dubois en 2013.
Alors, le soutien des collectivités, il a été constant tout au long de ces 10 ans. Quand on pense, par exemple, que la ville de Sedan, rien que pour l'entretien du stade, eh bien, c'est un billet de 600 000 euros par an, ça fait 6 millions sur ces 10 dernières années. Et puis, la subvention de la ville, elle était à hauteur de entre 80 et 100 000 euros selon les années. Donc, ça n'est pas rien pour une ville comme Sedan. Nous ne sommes pas une ville extrêmement riche, Sedan, c'est pas Neuilly. Quand on fait un effort comme celui-là, eh bien, forcément, on n'attend pas qu'on nous dise, ah, ben, merci tous les 4 matins, mais qu'on nous dise pas qu'effectivement, il n'y a eu rien. Bien sûr que on a soutenu Ardennes Métropole aussi. Dès que on a su les difficultés du club, et très tardivement, il faut le savoir, eh bien, nous avons voté, les 100 délégués d'Ardennes Métropole ont voté à l'unanimité une somme de 100 000 euros. Alors que l'on sait les difficultés que nous connaissons, toutes les collectivités aujourd'hui, en raison des inflations successives dans tous les domaines que nous connaissons. Donc les collectivités, elles ont été là.
Désormais, politiques et partenaires doivent faire front, main dans la main, et trouver une solution le plus rapidement possible pour sauver ce qui peut l'être. Il y a urgence, Didier Herbillon.
Un club historique comme celui-là, qui a plus de 100 ans, il a connu des cycles extrêmement brillants, vainqueur de Coupe de France, finale de Coupe de France, Coupe d'Europe même, encore récemment, sous l'ère de Pascal Urano. Un club comme ça, il peut pas mourir. Il est dans un cycle, effectivement, très négatif aujourd'hui, mais nous allons le redresser, nous allons repartir, tous ensemble, collectivement, avec aussi, évidemment, des partenaires privés, parce que le challenge est beau, au fond. Soyons positifs. On va pouvoir dire à des jeunes joueurs, voilà, participer à cette aventure pour que le CSSA, eh bien, reprenne sa place dans l'élite du football français.
Des propos recueillis au micro de RCF France-Ardennes, et même si un appel devant le Comité National Olympique et Sportif Français est encore possible, cette démarche prendra du temps. Le dépôt de bilan semble désormais inéluctable. Il faudra repartir de plus bas et certainement de Régional 1, donc pour le club sportif Sedan-Ardennes. 18h36, avant de refermer ce journal, coup d'œil du côté du ciel. Et c'est avec Raphaël Feyo, notre stagiaire à la rédaction. Encore une belle journée nous attend demain, Raphaël.
Oui, ce vendredi 7 juillet sera une journée très chaude. Dès le matin, les rayons du soleil montreront leur puissance avec une température importante. 20 degrés à Troyes, Saint-Dizier et Langres, et un soleil étincelant sur tout le territoire. L'après-midi, le soleil ne bougera pas, mais les moyennes vont fortement augmenter. Il fera au minimum 28 degrés, comme à Charleville-Mézières, 30 degrés sur toute la Marne, mais la maximale sera constatée à 31 degrés dans le sud de l'Aube. Les températures resteront élevées dans la soirée, avec par exemple 27 degrés à Reims et Châlons-en-Champagne. Demain, nous fêterons les Raoul, à une semaine de notre fête nationale. Bonne fin de soirée sur les antennes RCF Reims-Ardennes et RCF Cœur de Champagne.
Merci Raphaël, la soirée n'est pas tout à fait lancée. On reste encore ensemble jusqu'à 19h dans le magazine régional. On vous retrouve demain pour les tendances du week-end. Ainsi se referme ce journal, le 18-19 en Champagne. Lui, il continue sur RCF.
Le 18-19,
tous les jours,
sur RCF,
à Reims,
Châlons, Charleville-Mézières.
Vous le savez, il y a eu une échéance importante mardi pour les élèves en terminale, les résultats du baccalauréat. C'est l'objet de ce dernier numéro de Parole de Jeunes de Satie Dosso.
Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez Parole de Jeunes. Ce mardi 4 juillet, à 8h30, les élèves de terminale professionnelle et de terminale générale et technologique ont reçu leurs résultats du baccalauréat. En cette occasion, nous avons rencontré Pauline, Léonie et Paul. Respectivement âgés de 17 et 18 ans, ils ont accepté de répondre à nos questions. Bonjour Pauline.
Bonjour.
Bonjour Léonie.
Bonjour.
Bonjour Paul.
Bonjour Satie.
Pour commencer, quel bac avez-vous passé, Léonie ?
Nous avons tous les trois passé le baccalauréat général.
Cependant, vous aviez chacun des spécialités différentes. Quelles ont été les épreuves que vous appréhendiez le plus, Paul ?
Pour ma part, l'épreuve que j'appréhendais le plus, c'était la philosophie, je pense.
Pourquoi ?
Parce que c'est une matière qu'on a seulement commencé en terminale et du coup, ça fait beaucoup de choses à apprendre dans une seule année.
Pauline ?
Alors moi, c'était pas vraiment la philosophie grâce à la spécialité HLP. J'étais plus stressée par rapport au grand oral, qui me paraissait être une épreuve plus nouvelle.
Léonie ?
Pour ma part, c'était l'année dernière avec l'épreuve de français parce que c'était notre première vraie épreuve du baccalauréat en tant que vrai examen et j'ai beaucoup stressé.
Aviez-vous certaines attentes pour cet examen, Paul ?
J'avais pas d'attente particulière, non. Je me suis adapté à ce qui venait à moi.
Léonie ?
Je voulais viser le plus haut.
Pauline ?
Moi non plus, j'avais pas vraiment d'attente et ça s'est bien passé finalement, donc faut pas stresser, je pense.
Vous étiez les premiers à passer certaines épreuves de l'examen dès le mois de mars. Que pensez-vous de cette réforme, Pauline ?
C'est quand même très tôt et c'est très stressant aussi, mais finalement c'est adapté et puis on s'y prépare depuis longtemps, donc finalement ça va.
Léonie ?
C'est vrai que c'était très court pour préparer les différents programmes de nos spécialités, mais je pense qu'on s'en est bien sorti, même si on a vu quand même un relâchement évident des élèves après ces épreuves.
Paul ?
Je suis tout à fait d'accord avec ce qu'ont dit Pauline et Léonie. Et je pense que le bac en mars, ça n'a pas forcément créé de problème dans la manière dont les élèves ont révisé. Et donc, ce n'était pas forcément une mauvaise réforme.
D'ailleurs, quels sont les résultats que vous avez obtenus, Paul ?
Pour ma part, j'ai obtenu le bac avec mention bien.
Léonie ?
J'ai eu la mention très bien, donc je suis super contente.
Pauline ?
Moi aussi, j'ai eu la mention très bien.
Alors, que prévoyez-vous de faire l'an prochain, Léonie ?
J'ai prévu d'aller à Lille faire une licence de sciences politiques.
Pauline ?
L'année prochaine, je me rends à Paris pour faire une prépa littéraire.
Et toi, Paul ?
Je me rends à Paris-Créteil pour faire une licence en administration et échange international.
Pour finir, quel conseil pourriez-vous donner au terminal de l'année prochaine, Léonie ?
Le grand oral, il ne faut pas stresser autant qu'ils nous le disent. C'est faisable. Et par contre, l'ESP, il faut vraiment se donner à fond, je pense.
Pauline ?
Je suis d'accord, je pense qu'il ne faut pas stresser, il faut avoir confiance en soi et ne rien lâcher jusqu'au bout.
Paul ?
Je leur conseillerais de vraiment commencer à bien réviser dès le début pour ne pas être perdu et être stressé en mars.
C'est désormais la fin de l'émission. Merci à vous toutes et tous pour votre écoute et merci à vous, Pauline, Léonie et Paul pour vos réponses. Au revoir Pauline.
Au revoir.
Au revoir Léonie.
Au revoir Satie.
Au revoir Paul.
Au revoir Satie.
Beaucoup d'émotions pour cette dernière de Satie Dosso et encore une fois, félicitations à tous les bacheliers qui ont été reçus donc au baccalauréat 2023. Zoom sans transition désormais sur Demos, dispositif d'éducation musicale et orchestrale à vocation sociale. C'est un projet de démocratisation culturelle initié en 2010 par la Cité de la Musique et coordonné aujourd'hui par la Philharmonie de Paris. Après avoir ciblé les métropoles, la Philharmonie de Paris déploie aujourd'hui son dispositif d'orchestre de jeunes dans les villes moyennes et leurs territoires, dont l'agglomération de Saint-Dizier d'Herblay. Pour nous en parler, Clara Wagner, directrice déléguée aux relations institutionnelles de la Philharmonie de Paris, au téléphone avec Christopher Fausten.
Clara Wagner, bonjour.
Bonjour.
Avant justement de parler de ce projet, parlez-nous un petit peu de la Philharmonie de Paris.
Très volontiers. Donc, la Philharmonie de Paris est un établissement national et qui est soutenu et par l'État et par la ville de Paris et qui est un établissement relativement récent puisqu'il a ouvert ses portes en 2015 sur le parc de la Villette, tout à côté de la Seine-Saint-Denis. C'était une volonté politique des pouvoirs publics parce que la Philharmonie de Paris, un établissement musical proiforme, répondait à deux défis. Le premier, c'était de doter Paris d'une salle de concert symphonique aux standards internationaux. Et puis surtout, c'est un projet qui devait porter un projet éducatif d'élargissement, d'accessibilité à la musique classique, puisque toutes les études qui ont pu être menées sur les publics de la musique classique ont généralement montré à la fois un vieillissement de ce public et puis surtout un public sociologiquement plutôt issu des catégories sociales favorisées ou en tout cas culturellement très intégrées. C'est un projet musical, artistique, à dimension internationale très ambitieux, mais ce qui singularise la Philharmonie par rapport aux autres établissements musicaux dans le monde, c'est son projet de transmission, son projet éducatif, puisque nous proposons des ateliers, des propositions éducatives de l'âge de 3 mois jusqu'à l'âge adulte. Ce qui nous singularise encore davantage, c'est que nous proposons des projets éducatifs aussi très volontaristes à dimension sociale, comme le projet Demos.
Et ben justement, parlons de ce projet Demos. Comment a été mis en place ce projet Demos avec la Philharmonie de Paris ?
L'idée, c'était d'avoir un dispositif qui rende accessible la musique classique à des jeunes enfants qui, pour des raisons culturelles, sociales, géographiques ou économiques, étaient éloignés de cet univers-là. Nous avons fait le choix de l'orchestre, parce que l'orchestre, c'est le symbole par excellence de la musique classique et de la musique symphonique, et donc de la philharmonie. Le dispositif, c'est un orchestre d'une centaine d'enfants, hein, qui réunit une centaine d'enfants, sélectionnés sur des critères suivants, l'âge, entre 7 et 12 ans, n'ayant jamais pratiqué de musique, voire pas de pratique culturelle, et au démarrage du projet, puisque nous avons démarré sur Paris et l'Île-de-France, on était plutôt sur les quartiers politiques de la ville, grandes villes ou des métropoles. C'est à partir de 2015-2016 qu'il y a eu un infléchissement et que nous sommes allés aussi dans les petites villes et les zones rurales. Donc c'est un projet de pratique musicale collective, inclusif, puisque les enfants connaissent pas la musique quand ils démarrent, ils vont travailler et appréhender la musique à travers la danse, le chant, leur corps, et le solfège viendra à partir de la deuxième année. On est beaucoup dans une pratique orale, les enfants répètent en groupe de 15, ils sont encadrés par des musiciens professionnels et des acteurs sociaux, et inscrits dans la durée, puisque ces enfants, on les embarque pendant 3 ans, à raison de 4 heures de musique par semaine, avec une restitution publique chaque année, dont l'une des restitutions se fera évidemment à la Philharmonie de Paris.
Le projet DEMOS, dispositif d'éducation musicale et orchestrale à vocation sociale, qui va donc s'installer dans les villes moyennes, dont Saint-Dizier. Clara Wagner, pourquoi Saint-Dizier ?
Nous avons d'abord démarré plutôt dans les quartiers politiques de la ville et les grandes métropoles.
Oui.
C'est aussi souvent là que les tensions sont les plus fortes. Et le, comme vous, je vous l'indiquais, le projet est musical, mais il a une dimension aussi sociale très forte.
Oui.
Et on s'aperçoit, et on le sait en fait, que aussi dans les petites villes, dans les zones périurbaines, voire dans la ruralité, les enfants peuvent aussi être très éloigné des pratiques culturelles et musicales. Nous avons fait le choix de Saint-Dizier parce que nous étions déjà dans le Grand Est, mais plutôt à travers les grandes villes, Metz, Reims, et plus Mulhouse, Strasbourg, et plus récemment le Grand Verdun. Saint-Dizier parce que c'est une petite ville avec des communes rurales tout autour de la ville-centre Saint-Dizier. C'est un projet à l'échelle de l'agglomération et c'est aussi une façon de partager l'expertise musicale de la Philharmonie dans des territoires petites villes, mais qui ont par ailleurs un projet culturel très ambitieux. Et c'est pour nous intéressant de travailler en coopération avec des territoires qui, bien que peu dotés ou éloignés des grandes institutions, porte un projet culturel ambitieux. Et c'est pour ça que nous avons fait le choix de travailler et d'installer ce projet d'orchestre en partenariat avec l'agglomération Saint-Dizier et le conservatoire qui sera le porteur local sur place.
L'orchestre DEMOS de l'agglomération est donc le sixième de la région Grand Est. Sur le territoire, il va y avoir plusieurs groupes d'une quinzaine d'enfants qui vont être concentrés.
C'est ça. En général, un orchestre DEMOS, c'est une centaine d'enfants qu'on embarque. Donc, ça représente 6 ou 7 groupes de 15 enfants, 2 musiciens professionnels qui, à Saint-Dizier, seront des musiciens issus soit des professeurs du conservatoire ou des musiciens professionnels qui sont dans d'autres ensembles musicaux, pas forcément d'ailleurs sur Saint-Dizier même, et des référents sociaux. Le référent social est fondamental dans le projet parce que c'est lui qui fait le lien avec les familles, c'est lui qui connaît les enfants et c'est lui qui peut débloquer des situations de tension ou tout simplement d'enfants qui viendraient pas de façon récurrente à ces cours, parce que c'est quand même un projet exigeant dans lequel on embarque ses enfants. Notre objectif, c'est que nous proposions à ces enfants, bien qu'éloignés de la musique, un projet exigeant comme on le ferait pour n'importe quel enfant sur l'ensemble du territoire. Donc cet acteur social joue un rôle fondamental. Pour Saint-Dizier, enfin l'agglomération très exactement, il y aura 3 ou 4 groupes sur la ville de Saint-Dizier, dans les quartiers politiques de la ville, et puis des communes plus petites, rurales, 3 communes sur l'agglomération. Et ce projet va permettre à ces enfants, chaque mois, de se retrouver. Alors sans doute, comme un orchestre de centaines d'enfants, ça demande un espace scénique relativement important. Ce sera sans doute au Faisceau ou au théâtre municipal de la ville. Ça permettra à ces enfants, peut-être pour certains qui ne sont jamais venus à la ville-centre, aussi de découvrir des lieux culturels et de ne pas se sentir inhibés par le projet.
Clara Wagner, avant de nous quitter, on peut le dire, c'est un projet qui permet, eh bien, pour l'enfant, de, certes, de découvrir cette culture, mais de la poursuivre par la suite.
Alors, en effet, le projet qui existe maintenant depuis 10 ans, nous l'avons beaucoup évalué à plein de niveaux, alors notamment sur ce que deviennent les enfants à la suite de ce dispositif. On s'aperçoit que en moyenne, plus de 50% des enfants veulent et poursuivent une pratique musicale. C'est pour ça qu'on a un lien toujours très fort avec les institutions musicales locales, que ce soit un conservatoire ou une école municipale. Et donc, plus de 50% de ces enfants poursuivent. Donc, on espère que sur le territoire de l'agglomération de Saint-Dizier, ce sera le même cas. Parfois, c'est d'ailleurs plus. Par ailleurs, comme je vous l'indiquais, ce projet est inscrit dans la durée, et souvent on reste au moins 6 ans dans notre accompagnement pédagogique, dans notre accompagnement également financier, puisque Philharmonie apporte 2/3 du financement du projet en partenariat avec les partenaires locaux.
Une très bonne nouvelle donc pour l'agglomération Saint-Dizier d'Air et Blaise dans l'objectif de la culture pour tous. Très beau projet, bravo à la Philharmonie de Paris. On vous souhaite bien sûr une longue vie à ce projet Demos sur l'ensemble de la métropole, bien évidemment, mais aussi donc dans la région Grand Est. Merci beaucoup Clara Wagner d'avoir été avec nous aujourd'hui sur RCF pour nous présenter ce magnifique projet Demos, directrice déléguée aux relations institutionnelles de la Philharmonie de Paris. À très bientôt.
À très bientôt.
C'est l'été, on se permet une petite pause musicale et dans quelques instants, on vous donne des actus diocésaines sur RCF France Ardennes.
Ensemble, pas à pas, avançons, cheminons, grandissons, simplement, accueillons, osons partager vraiment, pas à pas. Avançons, cheminons, grandissons, simplement, accueillons, osons partager vraiment. Tu me parles en l'autre, fais-je ouvrir mes portes, me laisser imprégner, grandir en fraternité. Mon frère chemin de sainteté, mon frère chemin de sainteté. Prenons, soutenons, acceptons, humblement, désirons le pardon dans nos frictions. Mélangés, apprenons, soutenons, acceptons, humblement, désirons le pardon dans nos frictions. Dieu me parle en l'autre, vais-je ouvrir mes portes, me laisser imprégner, grandir en fraternité. Mon frère chemin de sainteté, wow. Mon frère chemin de sainteté, wow. Baptisé, répétons les merveilles de son nom, écoutons, recevons, témoignons de son pardon. Baptisé, répétons les merveilles de son nom, écoutons, recevons, témoignons de son pardon. Dieu me parle en l'autre, vais-je ouvrir mes portes, me laisser imprégner, grandir en fraternité. Mon frère chemin de sainteté, wow. Mon frère chemin de sainteté, wow. Toi, moi, ensemble, toi, moi, eux, nous, devenons saints. Toi, moi, eux, nous, ensemble, toi, moi, eux, nous, devenons saints. Ensemble, ensemble.
Ensemble, l'hymne du diocèse de Reims et des Ardennes proposé par Mathieu Cossier, évidemment, que vous connaissez certainement dans le diocèse, et ça nous amène à parler de ces nouvelles diocésaines que l'on a envie de vivre ensemble à 18h54 sur l'onde de RCF avec Anne Kerr, responsable de l'hospitalité de Lourdes pour le diocèse de Reims et des Ardennes. Elle est notre invitée à quelques semaines du pèlerinage annuel. Entretien au micro de Jean-Pierre Benoît.
Anne Kerr, bonjour.
Bonjour Jean-Pierre.
Vous êtes présidente de l'hospitalité de Lourdes. On va en reparler, on se prépare au pèlerinage. Alors vous nous adressez aujourd'hui un appel urgent, on pourrait même dire un appel pressant. De quoi s'agit-il exactement ?
Nous avançons dans la préparation du pèlerinage et nous apercevons qu'en fait nous avons un grand nombre de dossiers de demandes de malades, de pèlerins à accompagner, et nous ne sommes pas assez d'hospitaliers. Donc si nous voulons accepter ce que nous souhaitons le plus possible de personnes, il faut que nous confortions notre équipe d'hospitaliers.
Pourtant, vous avez une grosse équipe déjà d'hospitaliers. L'hospitalité de Lourdes dans le diocèse de Reims et des Ardennes, c'est quand même un nombre déjà conséquent, mais c'est pas suffisant.
Aujourd'hui, on a à peu près 130 hospitaliers d'inscrits, mais en principe, on compte deux accompagnants pour un pèlerin accompagné. Donc, il faudrait en même à peu près, on va dire, une vingtaine de personnes supplémentaires.
Et puis, il faut dire aussi qu'il y a sans doute besoin d'une équipe médicale peut-être un peu renforcée.
Alors, on a une équipe médicale qui est là essentiellement pour surveiller, pour accompagner, mais aussi qui aimerait bien être conforté en nombre, que ce soit en médecin ou en infirmière.
Alors on peut dire, Anne Kerr, aujourd'hui, que vous nous lancez un message, et vous lancez un message surtout à ceux qui nous écoutent en disant, ben venez, hospitalier, hospitalière.
Venez solliciter votre entourage, solliciter vos connaissances. Aujourd'hui, cette année, on organise une garde pour les jeunes enfants d'hospitaliers. Donc ça, c'est un petit plus en termes de liberté pour les parents pour venir en tant qu'hospitalier. On sait que ça représente un coût aussi de venir, mais on a aussi la possibilité de donner un petit coup de main à ceux qui pourraient avoir des difficultés à boucler le budget.
Ce pèlerinage est attendu, Anne Kerr, c'est vrai. Mais c'est un temps particulier, c'est un temps de ressourcement.
Les personnes que nous accompagnons, et même nous-mêmes, pour nous c'est important, c'est un temps de ressourcement. On sait que les personnes fragiles que nous accompagnons attendent d'être au pied de la grotte pour confier à Marie toutes leurs peines, tous leurs espoirs. Et on ne veut pas les décevoir. Donc Marie nous attend et on aimerait que le maximum puisse aller au pied de cette grotte.
Et puis vous avez, comme on dit, une date butoir, hein. Il faut vous se dépêcher maintenant.
Alors maintenant, il faut se dépêcher, puisque le pèlerinage est du 16 au 21 août. Donc en gros, on accepte encore des inscriptions jusqu'au, on va dire, 12-14 juillet, le temps après nous d'équilibrer nos services.
Alors, pour terminer avec nous, Anne Kerr, vous pouvez rappeler ce que signifie être hospitalier en 2023 ?
Alors un hospitalier, c'est quelqu'un qui accompagne, qui prend soin des personnes tout au long de la journée. On leur apporte leur aide dans les gestes du quotidien, donc ça peut être les repas, ça peut être les toilettes pour quelques-uns, mais simplement quelques-uns. Ça peut être l'habillement, mais aussi on les conduit et on participe avec eux aux cérémonies. L'élément principal, c'est pour un hospitalier, c'est d'être à l'écoute, c'est d'être attentionné, c'est d'être disponible. On ne demande pas de capacité médicale particulière, mais voilà, c'est surtout cette empathie et cette écoute qui est nécessaire.
Dans une ambiance un peu particulière. Une ambiance fraternelle.
On dit que l'hospitalité, c'est une grande famille. Donc on vit, on partage les rires, on partage les réconforts, on vit des journées comme une grande famille. Et j'allais dire, c'est vraiment un des points les plus importants de la vie de l'hospitalité.
Jusqu'à quelle date les inscriptions vont être prises ?
Alors, j'allais dire jusqu'à la veille du départ, mais on aimerait bien, nous, autour du 14 juillet, de savoir combien on va être de personnes pour...
Alors, il faut contacter une personne particulière, là, un nom sur la feuille. Là,
alors, il y a un nom, c'est Madame Vives Françoise. Ce nom, on le retrouve sur le site du diocèse. Il y a toutes les coordonnées sur le site du diocèse.
Il y a une adresse mail vives.fr@sfr.fr. Et puis, il y a deux numéros de téléphone qu'on a sur le site, je ne sais pas si à la radio on peut les donner, parce que en général tout le monde ne les retient pas, il ne peut pas les noter, tout le monde n'a pas de stylo. Alors c'est quand même le 06 88 82 52 52, 52 52 ça se retient, mais 06 88 82 52 52. Et puis il y a un fixe, le 03 53 13 11 64. On retrouve ça, Anne Kerr, sur le site du diocèse.
On retrouve tout sur le site du diocèse.
Dépêchez-vous si vous voulez rendre service pour l'hospitalité. Dépêchez-vous aussi si vous voulez participer au pèlerinage. Et puis on vous souhaite bonne route. C'est du 16 au 21 août. Et sans doute, on vous retrouvera peut-être en direct avec, bien sûr, Christian Deveau pendant la période du pèlerinage, si vous l'acceptez.
Oh ben oui, bien sûr. Merci Jean-Pierre.
Merci d'avoir été avec nous.
Voilà quelques beaux rendez-vous annoncés évidemment pour l'été et pour le mois d'août avec ce pèlerinage à Lourdes du diocèse de Reims et des Ardennes. On parlait aussi en septembre du pèlerinage à Lourdes de Cancer Espérance. Ça sera demain d'ailleurs que l'on évoquera sur l'antenne de RCF dans le magazine régional. Merci Luca Mastrolillo d'avoir été avec nous jusqu'au bout ce jeudi. On vous retrouve demain, fidèle au poste.
Toujours là.
On vous souhaite de bien vous reposer, de passer une bonne soirée. Merci Raphaël, on vous retrouve demain également.
Oui, également.
Également, bon ben ça c'est une bonne nouvelle à tous nos auditeurs. Dans quelques instants, vous le savez, c'est l'information nationale qui prend le relais. Demain, vendredi, on sera là pour le dernier magazine régional de la saison, 18h10, 19h. Et à partir de lundi prochain, en période estivale, il y aura toujours un magazine, mais ce sera à partir de 17h. Le 17-18 remplacera le 18-19.